Fait qu'hésitez pas de vous mettre plus de ce côté-ci de la colonne. J'ai ma belle idée de Yannick la semaine passée. On va encore attendre un petit 2-3 minutes pour, premièrement, les notes. On a 60 copies de notes, donc avancez, avancez. Oui? Les notes sont déjà là? Ils vont être là. Jonathan me dit où sont les notes. Je ne sais pas où sont les notes, mais je sais que André m'a demandé si j'en imprimais toujours 60. Ah, tu m'en passerais-tu un?
Si la personne n'est pas
le chercher. Ah, un non vendu, peut-être? Ça va être mieux que si je prends ma tablette, puis en même temps, ben, ça va être une image. Oh! Ici, j'ai celui de Jérémy Lacasse. Jérémy Lacasse, êtes-vous là? C'est ton livre, c'est une bonne brique, Providence, hein? Vous avez remarqué? Quand même, 700 pages, je pense, 700, 690. On va peut-être arriver à 795, qui dit mieux. Richard. 696, bon, on est sauf. C'est pas 700 pages. 696 pages. Et ça finit par « Viens, Seigneur ». C'est pas bon, ça? En pleine providence, c'est un excellent livre. Mais c'est de la théologie, en passant. C'est pas comme le livre de Piper sur Dieu et l'Évangile ou, par exemple, Prendre plaisir en Dieu. C'est pas comme les livres de Tim Keller ou Paul Tripp. C'est un livre plus théologique, je vais dire ça comme ça. C'est un peu comme les ouvrages de philosophie ou des... On peut prendre un livre qui parle de mathématiques ou on peut prendre un livre pour apprendre les mathématiques. Ça, c'est un livre qui développe la théologie de la Providence, une théologie biblique, mais il va plus loin que ça même. T'sais. Donc, c'est un très bon livre. Bon matin. Bienvenue à cette session 2 du cours Providence. Et j'aimerais prendre un petit... quelques secondes pour prier que Dieu ouvre notre esprit ce matin pour comprendre les profondeurs de sa volonté, de sa providence. Donc, prions. Seigneur Jésus, eh bien, là, on parle de toi. La théologie, c'est le discours de Dieu, ton discours. On veut apprendre à te connaître. En fait, on veut terminer cette session avec une meilleure connaissance de toi, être émerveillé par ta providence et... Seigneur, même sortir moins stressé, parce que quand on s'abandonne à ta providence, c'est la paix assurée. Merci Jésus d'être ce que t'es. Merci Dieu, notre Père, pour l'Esprit qui nous éclaire ce matin. Je te prie d'enlever tout ce qui pourrait mettre de la distorsion et du nuage, de la neige dans l'écran pour comprendre tes Écritures ce matin. Donne-moi de bien l'exposer comme il se doit. Et Seigneur Jésus, que tout soit pour ta gloire ce matin et pour toujours. On te prie en ton nom. Amen. Donc, Providence, cours numéro 2. On parle aujourd'hui de la création et avant. J'aimerais commencer. La semaine passée, on a parlé de plein de choses. C'était un... Si on regarde la table des matières de Providence, ceux qui ont le livre, vous allez voir un peu de quoi le cours en retourne. On fait un survol. La semaine passée, c'était « Qu'est-ce que la Providence divine? » Dieu se... Et on va voir aujourd'hui, avant la création et l'acte de création. Et on y va comme ça, section 3, section 4, section 5. On va voir la Providence à travers l'histoire d'Israël, à travers la Nouvelle Alliance. On va voir les portées de la Providence, c'est-à-dire sur la nature, sur Satan et ses démons, sur les rois et les nations, les malheurs et les bonheurs, les maladies. Comment la Providence peut intervenir quand ça va mal à selon nos perceptions? La Providence de Dieu dans la conversion, C'est souvent la prédestination, comment on peut joindre le libre arbitre de l'homme et la souveraineté absolue de Dieu dans sa providence. Et finalement, l'exploit final de la providence, qui est le triomphe des missions et le retour de Christ. C'est un très bon livre. Je vous encourage à le lire. Lisez-le, dégustez-le. Mettez-le sur vos tablettes. Est-ce que Jérémie est arrivé? J'ai ton livre, Jérémie. Ce matin, on va aller au début du début des débuts, c'est-à-dire Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Ça commence comme ça, la Bible. Hein? Ça commence pas trop de mise en contexte. La mise en contexte, on l'apprend au fur et à mesure que les Écritures se développent, c'est-à-dire qu'on finit par comprendre qu'il y a un Dieu trinitaire, un Fils, le Père, le Saint-Esprit, qui sont dans le ciel. Il y a une éternité passée, on n'a pas trop d'informations sur comment ça se passait. On ne sait pas l'interaction, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un moment donné, un moment où, au commencement, Dieu créa. Et c'est intéressant, ce « au commencement-là », c'est le commencement de notre monde à nous, pas du commencement de tout. C'est notre monde à nous. Et j'aimerais vous lire la définition que John Piper donne de la providence. La semaine passée, on a vu des confessions de foi et des catéchismes, comment on explique la providence, comment l'auteur du livre, lui, définit la providence. On va lire ça. « La providence de Dieu est sa souveraineté délibérée, par laquelle il parviendra à atteindre son but ultime pour l'univers. La providence de Dieu met ses plans à exécution, guide toute chose vers son but ultime et conduit à la consommation finale. C'est la souveraineté délibérée par laquelle il parvient à atteindre son but ultime. » La semaine passée, on voyait un peu la différence entre la volonté de Dieu, la providence de Dieu. Si on pouvait résumer ça comme ça, on pourrait dire que la volonté de Dieu, c'est le plan et les désirs de Dieu. La providence de Dieu, c'est la manière dont il met en œuvre ce plan et réalise ses désirs, son plan à lui. Donc, d'un côté, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut, tandis que sa providence, c'est la façon dont il l'accomplit. Il y en a un, c'est le quoi, l'autre, c'est le comment. C'est simple, hein? C'est assez simple à comprendre. Donc, la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus large que la providence. La volonté de Dieu, c'est là où Dieu veut aller. Qu'est-ce qu'il veut pour le haut commencement, notre monde, notre univers et pour l'univers en entier, pour nous, pour chacun de nous aussi. C'est quoi sa volonté? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis, la providence, c'est comment il met tout ça en exécution, comment lui, un Dieu souverain, arrive à mettre son plan en exécution. Et ça, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a 700 presque de pages pour nous l'expliquer. En fait, il y a 700 pages, pas parce que c'est difficile à comprendre, c'est parce qu'on a le cœur dur, les amis. On est des orgueilleux. De base, on veut plutôt être souverain. On aime ça, on n'accepte pas d'être un D minuscule quand on parle de Dieu. On aimerait être le D majuscule. Qui fait que quand on parle de souveraineté et de volonté humaine, on n'aime pas ça se faire dire quoi faire. On n'aime pas se faire gérer le basic, comme on dit. Et c'est là que le bas blesse. On n'accepte pas la providence de Dieu. Elle ne fait pas notre affaire. Parce que ça sous-entend d'un côté qu'on n'a pas de choix, et pourtant la Bible dit qu'on a des choix, mais on s'obstine souvent avec Dieu. C'est ce qui fait que ça prend 700 pages à John Piper pour l'expliquer. Et même au bout de ces 700 pages-là, c'est pas tout le monde qui est convaincu. Donc, la providence de Dieu, c'est donc le comment Dieu met à exécution son pourquoi, c'est-à-dire son plan, sa volonté, ce qu'il désire. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On sait qu'avant la création, il n'y avait que trois personnes, un Dieu. Il y a eu un moment où les anges n'étaient pas créés. Il y a eu un moment où, en fait, c'était pas un néant. On n'a aucun indice de ce qui se passait. Un jour, peut-être, qu'on en aura je dirais, une petite lumière. Peut-être quand on va arriver au ciel, on pourra demander à Dieu, comment, qu'est-ce que tu faisais dans l'éternité passée avec la Trinité? Comment ça se déroulait? On n'en a aucune idée. Mais ce qu'on sait, c'est que des fois dans la parole, et c'est là c'est merveilleux, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent. Tu sais, comme des petits... c'est comme opaque, on n'arrive pas à percevoir trop le qu'est-ce qui s'est passé au départ, le pourquoi. Et là, on arrive dans Éphésiens, chapitre 1, verset 6. On va aller à cette diapo-là, ma chère Monica. Merci. C'est une professionnelle, la slide. Faites pas ça à la maison. Donc, on va lire ce passage-là, parce qu'on va beaucoup broder autour de ce passage-là aujourd'hui. C'est un passage fantastique. Et ça nous met aussi en lumière les dimensions de la connaissance de Paul par rapport au plan de Dieu et au mystère de Dieu. Mystère, c'est les choses cachées. Éphésiens 1, chapitre 3 à 6. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Jusqu'à date, on dirait qu'il y a beaucoup de bénédictions. Et c'est vrai. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ah, déjà, il y a une lueur de plan, là. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et là, on voit encore que c'est lui qui décide pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. On peut voir à travers ce passage-là, premièrement, que bon, Dieu veut se faire un peuple. Hein? Des enfants d'adoption, il veut se faire un peuple, une famille où, encore, si on décortique le verset, l'objectif de la volonté de Dieu va donner naissance à un plan qui, à travers Jésus-Christ, va permettre l'adoption des élus en tant que fils dans le but ultime que ces derniers, écoutez ça, célèbrent la gloire de la grâce de Dieu. Célèbre la gloire de la grâce de Dieu. C'est le but final, le but ultime. Si on veut connaître sa volonté, elle est là, elle est écrite noir sur blanc dans la parole de Dieu. On l'a dans toutes les langues. C'est assez simple et assez clair. La visée finale de Dieu, en amorçant avant la création le projet du salut, était qu'il soit loué pour la gloire de sa grâce. C'est le pourquoi de tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est aujourd'hui. Je veux juste insister sur quelque chose. Il ne parle pas seulement de sa gloire, mais la célébration de sa gloire. L'objectif de Dieu avant même la création était que ce que nous sommes, ce que nous possédons, engendre la louange de sa gloire. Et ce n'est pas parce que je fais la louange le dimanche que je dis ça. C'est juste parce que c'est écrit comme ça. C'est clair comme de l'eau. Et c'est la raison pourquoi on a des chants de louange les dimanches. On voit donc que dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, ici, là, si on regarde le chapitre au complet, là, le chapitre 1, je vais vous le résumer en gros, Dieu nous a choisis pour sa gloire, verset 4. Il nous prédestine pour sa gloire, verset 5. Il nous adopte pour sa gloire, verset 5. Il nous destine à exister pour sa gloire, verset 12. Il scelle notre héritage pour sa gloire, verset 14. Plus clairement, plus précisément, son but qui est exprimé à trois reprises dans ce même passage n'est pas simplement la gloire de Dieu, mais la louange de sa gloire. C'est important. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines, les amis. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement une question d'estime. Ce n'est pas juste, OK, on va décrire sa gloire. Il y a du ressenti là-dedans. L'objectif de Dieu n'est pas seulement de faire briller la gloire de ses perfections, mais aussi d'amener l'être humain à estimer sa gloire comme digne de louange. C'est la célébration de la gloire, de la grâce de Dieu. Il y a une célébration qui vient avec le plan de Dieu. Et des fois, on l'oublie un peu. On est tellement cérébral, on est tellement... on essaie d'expliquer les choses. Et c'est normal, on veut comprendre les choses. Quand on essaie de comprendre les choses, c'est qu'on essaie de maîtriser les choses. L'idée de comprendre, c'est l'idée de bien cerner. Et il y a un petit dessous qui s'appelle « je maîtrise la chose parce que je la comprends bien ». Le problème avec Dieu, ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est notre problème à nous, c'est qu'on ne pourra jamais le comprendre en entier. On ne peut pas le cerner en entier. On peut juste cerner ce que lui désire nous révéler. Des fois, ça nous frustre. On aimerait en savoir plus, en avoir plus. On aimerait ça que ça soit plus clair. Tu sais. Mais c'est sa volonté. C'est comme ça qu'il le veut. Probablement, ça c'est ma théorie personnelle. C'est aussi dans le psaume 139 quand David dit, par exemple, que avant qu'aucun des jours n'existe, tout était écrit dans ton livre, chacune des journées qui m'étaient destinées. Ouf! Une science aussi grande est au-delà de ma portée, là. C'est comme on n'a pas été créé pour saisir Dieu. On n'a pas été créé pour le cerner. On n'est pas créé pour l'expliquer. On est créé pour célébrer la gloire de sa grâce. On est créé pour se réjouir. Ce que Dieu veut, c'est que notre joie soit parfaite. Pas que notre connaissance soit parfaite. La connaissance va venir avec l'obéissance et, je dirais, la reconnaissance en lui. Quand on se donne à lui, bien, ce qu'on a à savoir, on finit par le savoir. Et c'est tellement relationnel, et on le voit ici. C'est pas seulement de l'estime, mais du ressenti. Piper va loin dans... Et je suis totalement d'accord avec ça. Le manque d'émotion dans ce domaine est infiniment lié à l'absence d'une prise de conscience de la grande valeur de l'objet de la louange. On parle de Dieu, là, l'objet de la louange. Le manque d'émotion est intimement lié à l'absence d'une prise de conscience. Une adoration à demi-vécue n'est qu'une bien pauvre éloge. Dieu n'a aucune intention de voir son objectif final imprégné d'une telle médiocrité. Ça nous remet en question. Je ne pense pas que Dieu veut des exaltés finis qui se mettent à faire le bacon dans le milieu des allées. Mais je dirais qu'il voudrait peut-être l'équivalent de nous quand on est au stade, puis que finalement, Canadien compte, là. Après une si longue attente, c'était pas juste 3 jours et 3 nuits, là. Tu sais, on parle d'années. La journée qu'ils vont avoir la Coupe Stanley, ça devrait nous réjouir. En tout cas, pour ceux qui aiment le hockey, ceux qui aiment le soccer, c'est d'autres choses. Bon, on va prier pour vous. Mais pour les fans de hockey, mais vous comprenez l'idée. J'ai toujours été impressionné. Moi, j'ai eu une vie avant d'avoir ma vie, dans le sens que je collectionnais l'étiquette de shows. J'allais voir Queen, Styx, Rush, Yes, Genesis, des bandes que j'aimais. Et c'est fou comment les gens ils sont exaltés dans le stade quand la musique joue. Là, c'est dur d'arrêter le monde. Il y a une célébration, il y a de la grosse célébration. Et là, on parle de la musique. Et de la boucane, ben de la boucane. Je me dis, là, on est en train de célébrer la gloire de sa grâce. Et c'est pour ça qu'on a été créé, dans toute sa gloire. Dieu prouvera donc qu'il s'avère celui qui peut, bien plus que n'importe quoi ou n'importe qui d'autre, combler le cœur humain. Je dis ça, on a été créé pour ça. Et ça n'a pas changé depuis Adam, ça n'a pas changé depuis Ève. Le plan de Dieu, Éphésiens 1, 3, 6, c'était avant même que le « au commencement » soit écrit. Aujourd'hui, 1950, 1960, 70, 80, et plus, tu as été créé. Tu as été créé, enfant de Dieu ou pas, pour célébrer la gloire de sa grâce. Tu as été créé pour le party. Le party de Dieu. La joie, la célébration. Je vais vous parler de C.S. Lewis. Tout le monde connaît C.S. Lewis. C'est un peu comme un standard. C'est un standard dans le monde évangélique. C'est un auteur. Il a écrit beaucoup de livres de théologie. C'est intéressant parce qu'il a écrit des très bons livres. Il s'est converti. Il a écrit un livre « Surpris par la joie ». Il a écrit des commentaires. Il n'était pas encore sauvé. Il avait un arrière-plan plus... mettons anglican. Mais il se posait des questions par rapport à la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de son nom. Célébrer sa gloire. Dieu nous a créés pour qu'on célèbre sa gloire à lui. Et là, au début, dans sa vie, il trouvait que ça avait l'air un peu comme d'une femme, lui-même dit ça, là, une femme vaniteuse qui exige des compliments. Ça, tu parles d'un bizarre de Dieu qui insiste comme ça pour qu'on l'élève, puis que ce soit lui le king, puis qu'on dise « Wow, t'es beau, t'es bon, t'es fin! » Il est arrivé à réfléchir là-dessus, c'est aussi un philosophe, et là, il est arrivé à une conclusion. Toute jouissance de plaisir, c'est-à-dire tout ce qui comble nos plaisirs, tout ce qui nous fait du bien, toute jouissance de plaisir déborde en action de grâce. Toujours. Bon, mettons que Julie, mon épouse, elle vient de faire une nouvelle recette de gâteau. Un gâteau au chocolat, c'est pas double chocolat, c'est pas triple chocolat, c'est quadruple chocolat. Je ne m'en demande pas comment elle a fait, mais je l'ai dans mon assiette. J'en prends une bouchée que je mets dans ma bouche. Wow! Mais c'est bon! C'est ça la louange. Je suis en train de louer le gâteau, là. Je suis en train de louer le cook. C'est là la louange. Comprends-tu? Toute jouissance de plaisir déborde en action de grâce, toujours. Quand je suis dans le Centre Bell en train d'écouter un groupe, ou même quand on écoutait Chris Tomlin, comment ça s'appelle, à l'Olympia, il y a une couple d'années, les gens ils manifestaient physiquement et leur contentement et leur plaisir, ça débordait en action de grâce. Lewis nous dit, « Je crois qu'on aime faire l'éloge de ce qu'on apprécie parce que la louange ne fait pas qu'exprimer le plaisir. Elle le complète et en est l'accomplissement parfait. » Il y a une logique là-dedans. Tant que le gâteau est sur la table, on le contemple, on le trouve beau. On peut prendre des notes, des photos. Hein, c'est un Instagram, mettant. Mais moi, quand je vois... photo d'un gâteau sur Instagram, je ne sais pas s'il est bon, ça peut être un gâteau en styrofoam. On ne le saura bien jamais, là. Tu sais, il faut que je le goûte pour compléter la louange. C'est l'accomplissement parfait de ce qu'on apprécie. Exprimer le plaisir. La louange ne fait pas qu'exprimer le plaisir, elle le complète et en est l'accomplissement parfait. Le but de la création est d'exposer la propre gloire de Dieu, tout ça pour la gloire de Dieu. Et on va juste prendre une petite pause, ne partez pas là, pour la gloire. Il faut s'arrêter là, puis se poser la question, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Ceux qui ont les notes, c'est tout écrit, je fais juste suivre mes notes. Ça va très bien. La gloire. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence, de sa beauté, de sa sainteté, de sa puissance infinie. C'est l'éclat resplendissant de son être parfait qui transcende toute compréhension humaine. Bon, déjà là, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que la gloire de Dieu n'est pas perceptible pour l'être humain si Dieu volontairement ne la manifeste pas. Il faut que Dieu la manifeste d'une manière ou d'une autre, sinon, s'il n'y avait pas eu de haut commencement, puis juste des êtres humains qui flottent quelque part, on n'aurait même pas su que Dieu existe. Il fallait que Dieu nous titille les papilles, on pourrait dire ça comme ça, toujours ma référence avec le gâteau au chocolat. Il fallait que Dieu nous attire l'attention. Raison de plus avec un monde déchu. Dans un monde déchu, on est tellement éloigné et mort spirituellement, voilé et aveuglé, que la gloire de Dieu est à peine perceptible. On la voit à travers la création. Hein? Hier, on était à Doncaster, rivière Doncaster, et moi, je suis toujours, quand on va dans le bois de même, ça me coupe le souffle, littéralement. C'est tellement beau. Chaque fois, je me dis, mais comment les gens ne peuvent pas penser qu'il n'y a pas de Dieu? Tout pointe. Toute la nature hein, est là pour exposer la gloire de Dieu. C'est comme un démo. C'est comme un gros doigt qui pointe par en haut. Mais vous ne comprenez donc pas qu'il y a quelque chose de supérieur quand tu vois tout ça. Et en plus, quand on mélange ça avec la providence, bien, chaque petit rigole, les ruisseaux et chaque... Il commence à avoir les couleurs en plus. Tout ça est dans le dessein de Dieu. À un moment donné... C'est tellement gros que ça finit par, tu sais, ils disent en anglais « mind-blowing ». Quelqu'un a une traduction de ça? Ça nous explose la tête, je ne sais pas trop, là, mais c'est pas terrible, ça. Mais imaginez, la création, mais ce n'est pas encore la gloire de Dieu. La Bible, les Écritures révèlent la nature de Dieu. Ses actions, ses paroles, tout reflète sa gloire. Jésus était le reflet de la gloire de Dieu, était le Fils de Dieu incarné. Il était la parfaite image de la gloire de Dieu, révélant son amour et sa grâce au monde. Et nous, les croyants, on est transformés à l'image de Christ, de gloire en gloire. On reflète sa gloire. Quand les chrétiens vivent selon la volonté de Dieu, ils reflètent sa gloire dans leur vie, devenant des témoins de son amour et de sa puissance. La gloire de Dieu, c'est à la fois transcendant et immanent. Pour nous, c'est transcendant, c'est à l'extérieur de nous, c'est grand, c'est immense, c'est infini, c'est la nature, c'est l'univers, mais c'est pas la gloire encore. C'est sa parole. Tu sais, c'est Dieu qui nous parle et qui se révèle à travers la Bible d'une façon précise, mais c'est aussi l'Esprit qui vit en nous. C'est transcendant. Et c'est immanent, c'est de l'intérieur, par le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler la gloire de Christ. Il le dit, c'est clair, dans Jean, il sera là pour révéler sa gloire, pour nous faire comprendre la parole et nous aider à nous émerveiller et à célébrer par l'Esprit qui nous habite. La gloire de Dieu est à la fois transcendante et immanente. Elle est au-delà de notre compréhension, mais elle est aussi présente dans le monde qui nous entoure, dans la vie de ceux qui cherchent à le connaître. Le but ultime de la vie chrétienne est de le glorifier en toutes choses, en reconnaissant sa grandeur, en l'adorant et en vivant selon ses commandements. La gloire de Dieu est l'essence même de qui il est, la manifestation de sa perfection divine. C'est une réalité à la fois mystérieuse et magnifique qui nous invite à l'adorer, à le servir et à vivre pour lui. J'aimerais revenir sur la femme vaniteuse. Tu sais, la madame qui dit, ben, aimez-moi, trouvez-moi belle. Tu sais, on va comprendre un peu. Pourquoi Dieu va jusque-là? Gardez à l'esprit que Dieu est le Créateur. Non, mais des fois, on l'oublie. On navigue tellement, on a l'impression qu'on navigue seul, puis qu'on oublie que finalement, Dieu nous a créés avec un dessein, un but, et on a une ADN spécifique que lui nous a mis et qui est programmée pour quelque chose. Calvin dit, on est des fabriques à idoles. On est des machines, on aime ça. Et même chrétien, il faut être à l'affût, il faut faire attention. Keller a écrit un bon livre, Les idoles du cœur. C'est... Il faut être prudent. Parce qu'on se laisse émerveiller très facilement. Un très bon livre de Paul Tripp, Émerveillé, justement, arrive là et dit, notre problème aujourd'hui dans nos églises et dans le monde en général, mais surtout dans nos églises, c'est qu'on manque d'émerveillement. On manque d'émerveillement. On est tellement habitué à creuser la parole, on est tellement habitué à chanter des chants, on est tellement habitué qu'à un moment donné, c'est un peu comme un vieux couple qui est rentré dans sa routine. Puis que là, finalement, il n'y a plus grand-chose qui se passe dans ce couple-là. Ils sont quasiment pris pour se prendre une date pour se rencontrer, parce que chacun fait ses petites affaires, mais ils ont plus l'air de deux colocs que des amoureux passionnés. Et des fois, on est un peu comme ça avec Dieu. C'est dommage, mais c'est une triste réalité. Donc, on va revenir sur la femme vaniteuse. On va parler de l'autoglorification de Dieu. C'est complètement à l'opposé de ce qu'un être humain pourrait faire. Tu sais, quand un homme ou une femme, là, on s'entend, là, un être humain, quand un être humain s'exalte lui-même, tu sais, qui cherche à être glorifié ou qui cherche la gloire à travers un autre. Hier, je disais ça, tu sais, quand j'étais plus jeune, dans ma jeunesse, il y avait Don Carson qui est venu à Laval avec François Picard, puis là, j'ai dit, j'aimerais ça être pris en photo avec vous. Tu sais, comme si la gloire de Don Carson va m'éblouir et déborder sur moi. Tu sais, je veux être pris en photo avec lui. Et j'étais content, j'ai vu que Dieu m'a transformé parce que l'année passée, il y a 2 ans, je suis allé à la conférence Sing pour les leaders de louange. Et il y avait John Piper, qui est mon grand mentor que j'ai jamais vu, mais que j'ai entendu beaucoup. Et il était là, dans la même salle que moi. Il y avait beaucoup de gens autour de lui, avec, comme un fan club. Puis finalement, je me suis dit, bah, un jour, je vais être avec lui pour l'éternité, on va avoir du temps en masse pour jaser, tu sais. Fait que j'ai dit, ben, je ne vais pas insister pour être pris en photo avec lui, en pensant que sa gloire va refléter sur moi. Non, ça. On cherche la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'homme. Hein? L'homme, il est comme ça. Quand il veut qu'on le glorifie, rechercher la reconnaissance, dans le fond, c'est pas pour l'autre. Tu sais, quand je veux avoir l'air bon à la guitare, c'est pas parce que je veux que vous soyez satisfait de mon solo. C'est parce que j'espère quelque part, vous allez dire, « Wow, il était écœurant, le guitariste! » Tu sais, je veux, dans le fond, qu'il y ait un feedback de gloire qui me revienne. Je veux, j'ai soif de gloire pour moi et pour moi seul. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. L'auto-glorification de Dieu ne sert pas à soutirer, mais seulement qu'à donner. Dieu nous a créés pour ça. Dieu nous a créés pour se réjouir de sa gloire. On le voit là, dans le passage, là, Éphésiens 1:3-6, on a été créés pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc, quand Dieu dit « Je veux que vous soyez glorifiés en moi seulement », c'est qu'il nous a créés pour ça, c'est de l'amour pur. Il dit « Vous allez être heureux, abandonnez-vous, je vous ai créés pour ça. » Les passages sont tellement nombreux. Tu sais, « Abandonnez-lui tous vos soucis, car il prend lui-même soin de vous. » Et « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » « Votre Père céleste sait d'avance ce que vous avez besoin. » Tout ça est « Venez à moi et soyez émerveillés, soyez éblouis, réjouissez-vous de ma gloire. » Donc, ta louange ou ta gratitude, ton adoration va refléter ta vision de sa gloire. Et ça, c'est peut-être, s'il y a un petit morceau que tu devrais partir avec aujourd'hui, c'est ça. Comment va ta louange? Je demande ça souvent aux gens de la louange. Comment va ta louange? Parce que pour moi, ça reflète beaucoup. Ça reflète beaucoup sur ta vision de sa gloire. Et aussi, quelle gloire je recherche. Tu sais, comment va ta louange? Ah, j'ai pratiqué 72 heures cette semaine. Comment va ta louange? Je passe du temps à chercher la face de Dieu. C'est difficile parce que ma chair m'en empêche tout le temps. Mais je persévère et je veux, je demande, je supplie à Dieu, fais-moi voir ta face. On est ailleurs. On est ailleurs. On retourne dans Éphésiens 1, versets 3 à 6. Parce qu'il y a plus, encore plus, permettez-moi le québécisme, encore plus capoté. Non, mais c'est fou. C'est à couper le souffle. Donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Bon. Ça, la dernière phrase là, est en oui, parfait. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Là, il faut bien se mettre dans le contexte. On est dans l'éternité passée, là, avant le haut commencement. C'est pas un hymne national, là. « Haut commencement ». On pourrait chanter ça. Hein? Mais non, avant le début de tout ce que nous connaissons, dans l'Esprit de Dieu, dans sa volonté, ce que Dieu veut, était que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Avant la fondation du monde, avant l'existence des hommes, avant l'existence d'Adam et Ève, avant la chute de l'homme, avant les meurtres de Caïn, Abel et toute cette gang-là, et que tout ce qui s'est passé par la suite, la tour de Babel, avant tout ça, Dieu avait établi que le but de la création et de la providence, parce que là, la création et la providence vont de pair, serait la louange de la gloire de sa grâce. Et la grâce, ce n'est pas n'importe quoi. La grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. L'accès à cette grâce se ferait par le bien-aimé. Et on voit clairement que c'est par le pardon des péchés, par le sang du bien-aimé, par le Fils bien-aimé de Dieu. Autrement dit, non seulement la grâce offerte à des gens indignes était la couronne de gloire de Dieu, mais en plus, Dieu a prévu qu'elle s'exprimerait par l'effusion du sang de son Fils bien-aimé pour des péchés que lui-même n'aurait jamais commis. C'était déjà dans le plan de Dieu. Ça, c'est du mind-blowing. Ça, c'est comme, wow, OK, là. Ça nous amène à la croix. Ça nous amène à la croix. La gloire de cette grâce sera encore plus saisissante dans l'optique de la souffrance du Fils bien-aimé de Dieu pour nous, des pécheurs indignes. C'était déjà dans le but, dans le plan. Ça va revenir à plusieurs reprises dans le livre parce que c'est un élément central. C'est un élément central. Mais encore mieux que ça. Bon, on sait que Dieu n'a aucun besoin. On va parler du pourquoi de l'acte de création pour terminer. Évidemment, la providence suppose la création parce que la providence, c'est la scène où se jouent les œuvres de la providence. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pouvait parler de providence avant le haut commencement? Ben non, le haut commencement était le départ, on dirait, des actes de sa providence. Quand Dieu était Dieu, seul, dans l'univers, encore là, comme je vous dis, on n'en a aucune idée, on peut juste extrapoler, déblatérer là-dessus. Il se satisfaisait en lui-même. Plus que la plupart des théologiens. Il n'y avait pas de raison d'être de mettre en action son plan parce qu'il était satisfait en lui-même. Et maintenant qu'on sait que son plan, c'est la célébration de la gloire de sa grâce, ça implique le haut commencement. Donc, la Bible est en train de nous parler de... À partir de la Bible, c'est comme l'expérience de la providence de Dieu du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire au début, ben, au commencement. Et à la fin, ben, quand Jésus est revenu, on est dans les cieux et là, ben, tout est rétabli. Et là, ben, on est dans une perfection absolue. Avec la Bible, notre parole, ben, c'est la providence de Dieu racontée. Le but de la création... C'est le même que celui des œuvres de la Providence qui vont être exécutées dans le théâtre de la Providence, on pourrait dire. Donc, il convient en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, on parle de Dieu, soit le point central de cette Providence-là. Et là, on va en pousser un peu plus par rapport à Jésus. Il y a des passages très, 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 très clairs qui disent que c'est... Par exemple, bon... Romains 11, verset 36, qui dit « C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans les siècles des siècles. Donc, c'est de lui et par lui. Et donc, c'est de lui, par lui, volonté et providence, de lui, par lui, pour sa louange. Verset Apocalypse 4, 11, je vous mets ça. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as tout, tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Là, encore là, on a la volonté et la providence dans le même passage. On dit, c'est toi qui as tout créé, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Et c'est Jésus. On pourrait se poser la question, pourquoi Dieu veut que nous célébrions la louange de sa gloire? Le but de la création, c'est pas juste de faire écho à l'excellence de Dieu dans la campagne qui s'égaye ou dans les beaux sentiers qu'on a vus hier. Ça, c'est comme une main qui pointe. Les gens vont être, je dirais, inexcusables le jour du jugement. Ils vont dire, mais tu m'as pas vu à travers ça? Non, c'était pas clair. Ah, OK. Et pas là non plus pour qu'on puisse développer une connaissance ultra profonde de la parole, et c'est très bon de fonder notre théologie comme on fait aujourd'hui, mais ce n'est pas le but ultime. Ce n'est pas non plus de voir des chants d'allégresse de montagne comme Ésaïe 55-12 ou des battements des mains des rivières dans le psaume 198-8. Le but, c'est que l'excellence de Dieu soit manifestée à travers des esprits, des gens, des enfants qui peuvent raisonner, qui peuvent louer avec raison, et des cœurs qui peuvent exploser en louange, exploser vers des êtres humains qui ont été créés à son image, pour exposer la gloire de sa grâce en Jésus. Parce que tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui. Le but, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, on précise encore plus dans le bien-aimé. Le but de la providence nous amène, nous pointe vers Jésus. On pourrait dire, par exemple, dans Apocalypse 5, 9, 10 à 12, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu et de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tout pointe vers Jésus. Tout pointe vers Jésus. La gloire, célébrer la gloire de sa grâce, c'est non seulement la beauté de Christ, de son œuvre rédemptrice à la croix, mais également dans toutes ses réalisations. Et là, on va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous habite est là pour exalter Christ et réaliser le plan de Dieu, c'est-à-dire sa volonté. L'Esprit qui est en nous, on parle plus, c'est beaucoup plus qu'une restauration, c'est une nouvelle création glorieuse. Dieu veut remplir la terre de sa gloire. L'une des différences qu'on voit entre la première création puis la nouvelle création qui est nous, avec la Pentecôte, c'est de refléter intentionnellement les beautés spécifiques du Christ incarné. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et ces bonnes œuvres-là vont manifester le regard vers Dieu pour que les gens puissent le glorifier et le rencontrer. Durant toute l'éternité, les rachetés sont appelés à être porteurs de l'image de Jésus, non pas celle de Dieu d'une manière globale, mais comme dans la première création, là, c'est-à-dire avant la croix, mais de celle de Christ. 2 Corinthiens 3, 18, à mon avis, est un des passages les plus « wow ». Nous tous, dont le visage découvert, Ça dit déjà ce qui s'est passé. On a été découvert. Hein? Le voile a été enlevé. Maintenant, on peut voir la gloire de Dieu, la voir, la célébrer, la gloire de sa grâce. On reflète la gloire du Seigneur. Ça ne peut pas être plus clair que ça, là. Nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image. C'est l'image de Jésus. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est un processus, la sanctification qui nous transforme vers l'image de Christ. La gloire de Dieu, c'est celle de son Fils dans la création. C'est la même grâce, c'est la même gloire, tout comme le but de la première création par Christ et celui de la nouvelle création en Christ vont être une seule et même gloire. On est là pour compléter, et si Dieu nous laisse ici, c'est justement pour commencer l'œuvre et remplir la terre de sa gloire. Par notre célébration. C'est cool quand même. Tantôt, on va avoir un culte d'adoration. Ce qui devrait caractériser le culte d'adoration, c'est la célébration de la gloire de sa grâce. Parce que là, on est censé être à l'aboutissement même du plan de Dieu. Quand on rentre dans une église et que tu as l'impression que c'est t'es dans une funéraille, tu es dans un salon mortuaire, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Ouais, c'est pas juste une question d'être introverti ou extroverti. C'est une question de célébration. Et comme j'ai dit tantôt, on ne parle pas d'être exubérant, de faire du bacon dans les allées, là. Mais c'est vraiment d'être heureux, d'être joyeux. Et ça paraît dans le visage. Peut-être que tu n'es pas du genre les mains dans les airs, mais au moins dis-le à ta face que Christ est ressuscité, que sa gloire resplendit et qu'il t'habite aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, je vous ai mis un résumé, dernière page des notes. J'aimerais prendre, OK, il reste 3 minutes, on va le lire, mais c'est le résumé. Le but ultime de Dieu, et j'ai mis un verset pour chacun des points, des 6 points. Le but ultime de Dieu, c'est la célébration de sa gloire, notre sainteté, hein, qu'on soit transformé à la même image, et notre louange pour lui, le glorifier, lui. La louange de Dieu, c'est l'expression active de notre joie en lui, la célébration. L'auto-glorification de Dieu vise notre satisfaction complète. C'est pas comme la petite madame qui dit « Oh, miroir, miroir, qui est le plus beau? » Non, Dieu veut nous rendre heureux parce qu'il sait que notre satisfaction complète va être seulement quand on est pleinement satisfait en lui seulement, quand on se réjouit en lui seulement. La grâce de Dieu est au cœur de son plan depuis le commencement et même avant. Au commencement et même avant, c'était déjà dans l'intention de Dieu de nous pointer vers la croix, puis ensuite d'aller dans l'Église jusqu'au rétablissement, le retour de Christ et la fin des temps, qui va être une éternité en plus. Fait que tu as une éternité avant, une éternité après. Entre les deux, c'est le moment de la providence où Dieu, et là on va le voir à travers le livre, met en œuvre son plan et sa volonté. Et son désir ultime, c'est qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce. La nouvelle création en Christ, par le Saint-Esprit, nous transforme à sa gloire. Avez-vous des questions? Il est moins 10. Moi, je mets les questions à la fin. Fait que prenez le temps. Vos questions, on a un Johnny qui va se promener avec le microphone. Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport à cette découverte du plan de Dieu à travers sa providence? Sérieux? Écoutez, les amis, je vais vous confier une petite tranche d'intimité. Ça fait 7 ans que je n'ai pas donné un cours. J'étais plus nerveux que quand je prêche. J'étais stressé. J'ai révisé. Je me disais, il me semble, c'était pas clair. C'était clair. Donc, c'était clair. C'était très clair. Il y a des morceaux qui vont être, se clarifier aussi à travers le... C'est quand même 700 pages, là. Surtout par la part de l'homme. Parce que un des plus gros problèmes de la Providence, qui n'est pas un problème en soi, mais comme je disais tantôt, c'est à cause de notre nature pécheresse qui fait qu'on met des questions là où il ne devrait pas en avoir. Mais... oui. Ce qui devrait être un point d'exclamation devient un gros point d'interrogation. Puis des fois, on devient un peu comme le juge de Dieu, franchement. T'sais. Genre, par exemple, le mal dans la sur la planète. Pourquoi Dieu tolère le mal? Pourquoi ma belle-mère s'est faite inonder? Et pourquoi au Nigeria, il y a des centaines d'enfants qui ont été enlevés, violés, tués? On les retrouve après 3-4 ans. C'était les atrocités incroyables. Et c'est des chrétiens. Donc, tu dis, mais voyons. Mais pourquoi? Mais juste ce pourquoi-là est quand même quelque chose. C'est, on est en train de pointer Dieu. Hey! Méchant Dieu! Tu sais, non. Non, 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 tu vas avoir affaire à moi. À chaque fois qu'on dit un pourquoi à Dieu, c'est un peu ça qui se passe, là, tu sais. Et ça va loin, là. On a juste ouvert le journal, puis on a plein d'exemples de gros questionnements que les gens se posent. Pourquoi le mal, si Dieu est si bon? Des fois, dans même enjeu. Un autre enjeu, c'est l'idée que Dieu n'est comme pas là. Dieu est absent, si Dieu semble si absent, mais en fait, la réalité, c'est que nous, on est là. Mais bon, ça m'amènerait peut-être à une autre question, peut-être qu'on ne fait pas bien notre job, mais ça, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a des églises, des fois, qui, malgré tout, et encore là, ça vient poser des grosses questions par rapport à la providence de Dieu. Une église comme l'Odyssée qui dit « je vais te vomir de ma bouche », ben, c'est spécial quand même, tu sais. Là, on arrive dans le monde de la souveraineté de Dieu, le libre arbitre. C'est des questions très épineuses. Une question intéressante, c'est à la fin des temps, il y aura un jugement. Et même, on en parle souvent. Jésus en a parlé souvent. À la fin des temps, on va être jugé par nos actions. On va être jugé aussi par nos paroles. Mais là, si la parole n'est pas sur ma bouche, que tu la connais déjà en entier, si Dieu... déjà écrit le livre et toutes les pages avant même que je naisse. C'est-tu juste comme fantoche, puis qu'on retourne dans des pays totalitaires où que les procès sont arrangés? Ben non, on sait bien que Dieu est juste, est totalement juste. On sait aussi que sa miséricorde est parfaite. La Bible est claire qu'on est responsable de nos choix. Totalement, mais en même temps, on va le voir en détail. Ce livre-là m'a fait capoter jusque dans tous les détails où, Bible à l'appui, là, Dieu est en contrôle de chacun des atomes qui spinent dans ton corps. Là. Et il est conscient de ce qui se passe. C'est pas comme il les a toutes parties sur l'automatique, puis après ça, je reviens dans 50 ans pour que tu meurs. Là. Non, il est conscient de... C'est là que ça dépasse un petit peu mon petit cerveau. Je ne sais pas combien de milliards d'atomes chaque être humain a, mais tu peux dire juste nous autres ici. Là. Dieu est conscient et volontairement, il n'y a pas un cheveu qui tombe de ta tête sans que lui l'ait voulu. Fait que ça, c'est... Et de l'autre côté, on est totalement libre de ce qu'on a à dire et de ce qu'on a à faire. Il y a des morceaux, des fois, qui sont durs à réconcilier et c'est là que ça va être super intéressant d'approfondir ce cours-là sur la providence de Dieu, en espérant que ça va vous aider à vous abandonner. Mais je vous donne déjà un petit cue. Le mieux, c'est ça. C'est de faire confiance. De dire, écoute, je comprends pas, mais ce que je sais, c'est que ta miséricorde durera toujours. Je reviens souvent, mon temps passe, je reviens souvent à Moïse. Il dit, fais-moi voir ta face. Puis là, Dieu dit, écoute, mon grand, on ne peut pas voir ma face puis vivre, c'est juste comme ça. Imaginez, là, on a l'esprit en nous maintenant. Là. C'est pour dire le privilège qu'on a. On a plus que Moïse. Là. Donc, et ce qui me fait tout le temps capoter, c'est qu'est-ce que Dieu fait? Il passe, il expose verbalement sa miséricorde. sa miséricorde qui pardonne et qui pardonne et qui juge. Et sa miséricorde qui pardonne et qui juge. Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Fait que s'il y a des bouts que tu as de la misère à catcher, ben, demande à Dieu de t'aider à comprendre. C'est pas parce que c'est lui qui est le fautif. Probablement que c'est soit qu'on comprend pas ou qu'on sera jamais capable de comprendre. Pardon? Bon, on l'accepte pas parce qu'on a été... Bon, on a été créé pour la célébration de la gloire de sa grâce. Nous, on a été créé pour faire le party avec lui. On n'a pas été créé pour essayer de comprendre comment les lumières fonctionnent puis toute la bébelle. Oui?
Tu parlais de confiance, puis ça me fait réaliser que plus on va apprendre à aimer puis à connaître notre Dieu, plus on va lui faire confiance. C'est un peu ça grandi.
Un gros amen à ça. Et ça aussi, je n'arrête pas de le dire, c'est relationnel. Et Dieu, il est saint. Il est saint. Ça ne veut pas juste dire qu'il y a une auréole, ça veut dire qu'il est différent. Il est complètement différent. Il est à part, d'une catégorie à part. Nous, moi, j'ai accepté Jésus, ou j'ai accepté, plutôt Jésus m'a rencontré quand j'avais 20 ans. Et franchement, là, j'arrive bientôt à 60. Entre 20 et 60, il s'en est passé des affaires. Hein? Je voulais être avec Don Carson quand j'avais 30 ans. À 60, je m'en fous un peu. Là. Non, mais je ne me fous pas de Don Carson. Je remercie Dieu pour ces hommes-là. Mais dans le sens que quand ils sont dans la même pièce que moi, je ne me pars pas en courant pour... On a compris des affaires, c'est exactement ce que tu dis. À un moment donné, Dieu, on apprend à le connaître à l'expérience, puis à prendre du temps avec lui, prendre du temps dans sa parole, et ça demande du temps. Je pourrais dire une dernière petite chose. On est dans une époque où tout le monde roule comme... des malades, ça roule, hein, ça va vite. On n'est plus très contemplatif. Puis moi, dans mon expérience personnelle, mais aussi quand je le partage à d'autres, quand tu pries 5 minutes, tu n'as pas vraiment le temps de prendre conscience de la présence de Dieu. C'est juste un fait. Tu vas être très technique, là, dans le sens que tu peux déblayer des listes, lire la Bible. Mais même dans la lecture de la Bible, je peux vous dire que ça me prend un bon 20 minutes, là. Là, je fais pas. Ça dépend tout le temps des emails que j'ai eus juste avant. J'essaie de ne pas lire mes emails avant de faire mon temps avec Jésus. Puis aussi d'avoir une régularité, hein, c'est dans le sens que de tous les jours, prendre du temps avec Dieu, prendre le temps, au prix peut-être de couper une série le soir ou de regarder en rediffusion, mais de prendre le temps parce que c'est relationnel. Je veux dire, c'est comme avec ta femme ou avec ton mari. Si tu n'avais pas passé du temps avec, tu n'aurais pas appris à la connaître. Puis, il n'y a pas de secret, là. C'est juste de même. Et d'autant plus avec Dieu. Lui, il reste toujours le même, mais nous, on est loin. Puis, on a plein de petits travers qu'on n'est pas conscient. Tu sais, genre comme courir après la gloire de Don Carson. J'étais zéro conscient de ça le jour où c'est arrivé. C'est juste par la suite. J'ai ressorti une photo, puis c'était moi avec Don. Là, je me suis rappelé. J'ai dit merci Jésus. La gloire en gloire a fonctionné après des années. C'est bon, les amis? Permettez que je prie avant qu'on se laisse, puis que dans une demi-heure, c'est notre célébration. Sourissez. Merci Jésus. Pour ton plan parfait. Merci, Jésus, que tu veux faire de nous des célébrants, des personnes qui vont célébrer la gloire de ta grâce. Permets-nous cette semaine de méditer là-dessus, d'être des gens joyeux qui célèbrent, qui sont heureux, qui sont reconnaissants, toujours remplis d'actions de grâce, qui vont célébrer ta gloire, ta beauté, ta splendeur, tout ce que tu es, et ta grâce, Seigneur. Fais qu'on ne soit pas des chrétiens oublieux et qu'on oublie d'où on est parti, qu'on oublie la splendeur de la croix, à quel point c'était ton plan Et c'était pas un plan facile, c'était le plan douloureux. On a toujours à l'esprit le Christ dans le jardin qui dit au Père, si cette coupe peut s'éloigner, mais non ma volonté, mais la tienne. Merci, Jésus, d'avoir été jusqu'au bout. Maintenant, on peut être des célébrants de la gloire de ta grâce. Merci, Seigneur. Permets qu'on ait ces belles gloires toujours à l'esprit. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.